La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, nous sommes toujours en 1920 pour ce troisième mois et nous allons étudier une œuvre qui va nous présenter les principes de la philosophie réaliste, principes généraux. Après un mois sur le bergsonisme et un mois sur l'art, accrochons-nous, nous entrons dans la grande métaphysique de Jacques Maritain. Voilà, pour ce mois de novembre, je vous propose de commencer par un petit rappel sur l'euthomisme. Qu'est-ce que l'euthomisme ? C'est d'abord un enseignement de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, 1224-1274. Je vous renvoie aux Dominicains qui ont finalement la parole particulièrement indiquée, les écrits performants, pourrait-on dire, pour vous présenter saint Thomas d'Aquin. Le petit rappel que je vous propose, c'est que le thomisme est aussi une doctrine pour l'Église. Ce n'est pas uniquement un enseignement de saint Thomas d'Aquin, mais c'est une doctrine, c'est-à-dire qu'il y a une fonction magistérielle après la mort de saint Thomas d'Aquin dans cette philosophie au service de l'Église. 1323, canonisation de frère Thomas d'Aquin par le pape Jean XXI. 6 février 1344, tout va très vite, attestation par Clément VI de la diffusion de la pensée de saint Thomas dans l'Église universelle. 1346, 2 ans après, prescription à l'ordre dominicain de ne pas s'écarter de sa doctrine. 1368, Urbain V enjoint à l'Université de Toulouse de suivre la doctrine du bienheureux Thomas comme étant véridique et catholique et de s'appliquer de toutes ses forces à la développer. Soutiennent le thomisme, je vais vite, les papes Nicolas V, Pie IV, Pie V qui proclament saint Thomas docteur de l'Église, Sixte Quint, Clément VIII, Paul V, Alexandre VII, Innocent XI, Innocent XII, Benoît XIII, Clément XII, Benoît XIV, qui écrit « Depuis la bienheureuse mort du saint docteur, l'Église n'a pas tenu un seul concile auquel Thomas n'ait participé par les trésors de sa doctrine. » Cette phrase est reprise de Pie X dans le Motu Proprio Doctoris Angelici. Donc nous comprenons bien que face au modernisme, l'euthomisme est bien plus qu'un rempart. C'est un appel à la sagesse. Pie XI, le 29 juin 1923, dans l'encyclique Studiorum Ducem, mettant dans son plein jour l'union dans le docteur angélique de la sainteté et de la doctrine, et montrant en lui, avec la grâce de l'éloquence de la sagesse, l'alliance des deux sagesses, l'acquise et l'infuse, nous rend finalement comme sensiblement présent tout ce qu'il y a d'amour, d'énergie apostolique, de vitalité toujours actuelle dans la pensée de saint Thomas. L'encyclique insiste également sur la catholicité de cette pensée et tout en reprenant le mot de Benoît XV, elle donne une consécration officielle au plus ancien, voire au plus beau sans doute, des titres de saint Thomas. Voici. Quant à nous, nous trouvons si justifiés les magnifiques hommages rendus à ce génie vraiment divin que, à notre avis, il convient d'appeler non seulement docteur angélique, mais encore docteur commun ou universel de l'Église, celui dont l'Église a fait sienne la doctrine, comme le prouvent tant de documents de toutes sortes. Vous comprenez tout à fait que l'enjeu dans lequel nous entrons est précisément cette dimension universelle et cette doctrine adoptée par l'Église, cette philosophie adoptée par l'Église et en même temps la désenclaver de l'Église, tel est le propos que se fixe Jacques Maritain. Dans les deux pôles, regardons un peu de plus près les textes. Je continue par la citation de Benoît XV. Accoutumé à contempler toute chose en Dieu, cause première et fin dernière de tout ce qui a été fait, Thomas était naturellement enclin à se guider dans sa vie comme dans sa somme théologique, d'après les deux sagesses, donc acquises et infuses, dont nous avons parlé, et qu'il décrit en ces termes. La sagesse que l'homme acquiert par l'étude le met à même de porter sur les choses divines un jugement droit selon l'usage parfait de la raison, mais l'autre sagesse est un don qui descend du ciel, et elle juge des choses divines en vertu d'une certaine communauté de nature, connaturalité avec elle. Elle est un don de l'Esprit-Saint par lequel l'homme est rendu parfait dans l'ordre des choses divines, n'apprenant pas seulement, mais expérimentant en lui ces choses. Il poursuit à propos de la philosophie, « Il appartient aux sages de mettre l'ordre dans les choses, parce que la sagesse est au premier chef une perfection de la raison, dont le propre est de connaître l'ordre. En effet, bien que les puissances sensitives connaissent certaines choses prises absolument, il relève de l'intellect seul ou de la raison de connaître la relation ou l'ordre qui joint l'une à l'autre. » Nous l'avons vu, l'enjeu va être une écriture de la philosophie. Comment conjoindre ces deux disciplines que sont la théologie et la philosophie? Comment rendre autonome la théologie de la philosophie? Comment comprendre que ce sont des sciences subalternées, j'utilise un mot sur lequel nous allons revenir, la subalternation des disciplines. Comment faire que la philosophie puisse être lisible par un autre qu'un chrétien, puisqu'il s'agit de l'exercice de la raison. Alors, petit rappel historique, en parlant du pape Léon XIII. Avec le pape Léon XIII, on a un renouveau thomiste qui s'initie. Rappelons, le 4 août 1879, l'encyclique Aeterni Patris, Léon XIII énonce « La doctrine de saint Thomas est si vaste qu'elle contient, comme une mer, toute la sagesse qui découle des anciens. Tout ce qui a été dit de vrai, tout ce qui a été sagement discuté par les philosophes païens, par les pères et les docteurs de l'Église, par les hommes supérieurs qui florissaient avant lui, non seulement il l'a pleinement connu, mais il l'a accru, parfait, ordonné, avec une vue si perspicace des principes essentiels, avec une telle perfection de méthode et une telle propriété des termes, qu'il semble n'avoir laissé à ceux qui le suivaient que la faculté de l'imiter, en leur ôtant la possibilité de l'égaler. » Vous sentez ici dans ce rappel chronologique qu'il ne s'agit pas de baptiser Aristote, comme on l'a souvent dit. Il s'agit plutôt de voir dans la philosophie de l'Antiquité les germes, les prémices, comme dira Maritain, des vérités cachées qui vont éclore. Le pape écrit bien, elles sont parfaites. Il y a une perfection qui arrive avec saint Thomas d'Aquin dans la mise au jour de ce qui était contenu avant. Maritain a une autre expression, il dit que la philosophie a changé d'état, non de nature. J'ai déjà cité cette pensée de Jacques Maritain qui résume bien finalement ce que le pape vient d'écrire dans cette rapide chronologie de l'histoire. Il enchaîne en disant « Il y a encore ceci de considérable, c'est que la doctrine de saint Thomas, étant formée et comme armée de principes d'une grande largeur d'application, répond aux nécessités non pas d'une époque seulement, mais de tous les temps, et qu'elle est souverainement propre à vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. » Autrement dit, dans Philosophia Perennis, philosophie universelle, on a une philosophie qui est à la fois ancrée dans son époque pour y répondre, et en même temps qui surplombe son époque, qui appartient à ce qu'on peut appeler le plan du facteur déterminant et non pas celui du facteur conditionnant, qui répond à des conditionnements spatiaux, temporels, limités finalement à une époque historique. La problématique, même pour un thomiste, c'est finalement de recevoir cette tradition, de s'y intégrer et de faire du nouveau et pas de ratiociner en répétant, en perroquetant. Maritain dit « le thomisme procède par approfondissement et c'est en approfondissant qu'il va progresser et c'est non pas en cherchant à la surface comment faire du neuf. » Donc le thomisme, par définition, est indifférent à la mode, à l'influence, comme je disais, du paramètre conditionnant. Et c'est très important de comprendre ces perspectives avant d'entrer dans cette œuvre philosophique de 1920. Encore pour terminer sur la chronologie, le 18 janvier 1880, les Dominicains, aux frais du Saint-Siège, doivent publier une édition de Saint Thomas. Le 4 août 1880, universités, académies, facultés et écoles catholiques placées sous le patronage de Saint Thomas doivent répandre, je cite, la doctrine thomiste qui possède avec une éminente supériorité une force et une vertu singulière pour guérir les maux dont notre époque est affligée. Comment faire pour Jacques Maritain, qui est un laïc? Il n'appartient pas finalement au séminaire, il n'est pas un religieux, même s'il a fait des vœux, il est oblat de Saint-Benoît. Comment faire pour diffuser la pensée thomiste en restant dans l'Église? Il rencontre les papes, il est complètement chrétien, tout en étant philosophe et en permettant ce dialogue avec d'autres philosophes. Pour mieux comprendre l'enjeu, voici ce que dit Yves Simon, qui est un disciple, un ami de Maritain. Ses dates de naissance et de mort, 1903-1961. Il explique en disant que pour mes compagnons et pour moi-même, le problème philosophique s'est d'abord posé sous la forme d'une relation entre la parole humaine et la parole de Dieu. Yves Simon est un laïc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cet éclairage. Il continue en disant « Essayons de représenter ce que pouvait être l'état d'esprit d'un jeune philosophe catholique vivant à Paris en 1920. Au collège, il a entendu parler du système de la cloison étanche. Il sait que certains croyants, philosophes de métier, ne se sont jamais inquiétés de vérifier l'accord de leurs croyances et de leur philosophie. Or, la psychologie de l'homme, à la double vérité, lui paraît un scandale. Il a le goût de la cohérence dans les assemblages intellectuels, le sens des implications nécessaires, des incompatibilités irréductibles. Ce besoin de cohérence logique dans les rapports de la philosophie et de la foi a été plus vivement ressenti par les hommes de notre génération qu'il ne l'avait été par les générations immédiatement antérieures. Le modernisme avait poussé l'incohérence à l'extrême. » En 1918, sur le grand marché des systèmes, le thomisme pourtant ne semble guère avoir l'avenir devant lui. Initié par Léon XIII, nous venons de le voir, dans l'encyclique Aeterni Patris en 1879, le réveil de la scolastique peinait encore à sortir des sacristies, divisées en traditions d'interprétation concurrentes, hésitant entre un archéologisme intégriste et des adaptations rapides au goût du jour, affaibli dans ses principaux organes, la revue thomiste en 1893 est essoufflée et l'université de Louvain est ruinée par la guerre. Je viens de citer un commentaire de Michel Fourcade qui a fait une excellente thèse sur le thomisme et les thomismes sur Maritain, thèse qui sera publiée très prochainement. Donc voilà les enjeux. Je vous propose de retrouver le texte de Maritain juste après la pause musicale.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
La philosophie nous était apparue tout d'abord comme la sagesse humaine. Maintenant que nous savons mieux, par l'histoire même de sa genèse, en quoi consiste cette sagesse et de quoi elle s'occupe, nous pouvons essayer de dire avec plus de précision ce qu'est la philosophie. Voilà commence le deuxième chapitre, donc intitulé « Nature de la philosophie, conclusion », extrait de l'introduction générale à la philosophie, écrit en 1920 de Jacques Maritain. Maritain va répondre par étapes. Premièrement, la philosophie est-elle une sagesse de conduite ou de vie qui consisterait à bien agir, au sens où nous appelons parfois « sage » celui qui est vertueux. Il répond « non, la philosophie est une sagesse qui consiste à connaître ». Vous soulignez, vous remarquez la tension qu'il va y avoir entre sagesse et connaissance. On sort du simple plan éthique. Deuxièmement, connaître, mais comment ? Connaître au sens plein et parfait du mot, c'est-à-dire avec certitude, et en pouvant dire pourquoi la chose est telle qu'on l'a dit, et ne peut pas être autrement. Connaître par les causes. Il continue. La recherche des causes est en effet la grande affaire des philosophes. Et la connaissance dont ils s'occupent n'est pas une connaissance simplement probable, comme celle que procurent les orateurs par leur discours, c'est une connaissance capable de nécessiter l'intelligence, comme celle que les géomètres procurent par leur démonstration. Mais qu'est-ce qu'une connaissance certaine par les causes ? C'est ce qu'on appelle une science. La philosophie est une science. Si certains parmi vous se souviennent de leur cours de philosophie de terminale, vous n'aurez pas manqué de noter ici le mot « géomètre ». Pourquoi ? Parce que la géométrie va devenir le domaine de référence de la philosophie dite moderne, celle qui apparaît avec Descartes. Descartes va penser la philosophie en fonction de la géométrie. On a l'avènement des sciences avec Galilée, l'avènement de la technique avec l'apparition du verre. On sait très bien faire des verres concaves et convexes, donc des lunettes. Et Galilée pourra donc vérifier ce que Copernic avait intuité. Et du coup, on a un changement, une révolution copernicienne. Et cet avènement des sciences, où le réel devient mesurable, vérifiable, va servir de nouvelle définition à la science. Pendant les siècles de scolastique médiévale, la grande question était « la théologie est-elle une science ?» Il est évident qu'on n'avait pas tout à fait le même sens du mot « science ». Ici, dès les deux premiers paragraphes de ce chapitre 2 de « Introduction générale à la philosophie », Jacques Maritain va mettre en amont et en aval le mot « sagesse » et le mot « science » appliqués à la philosophie. Elle sera à la fois « sagesse » et « science ». Troisièmement, voilà une troisième idée, connaître par quels moyens, grâce à quelle lumière. Vous voyez ici la référence au siècle des Lumières, lumière de la raison. Et il enchaîne, connaître par la raison, grâce à ce qu'on appelle la lumière naturelle de l'intelligence humaine. Et vous voyez ici le petit décalage, lumière naturelle de l'intelligence humaine, ce n'est peut-être pas que la raison au sens du 18e. C'est là le caractère commun de toute science purement humaine, par opposition à la théologie. Ce qui règle la philosophie, le critérium de vérité qu'elle emploie, c'est donc l'évidence de l'objet. Le moyen ou la lumière par quoi une science atteint les choses, c'est ce qu'on nomme en langage technique le lumen sub quo de cette science, c'est-à-dire la lumière sous laquelle elle saisit l'objet qu'elle connaît. Je n'ai pas résisté à vous laisser le latin dans le texte parce que c'est Maritain. Il vient de cette tradition où on lit saint Thomas d'Aquin dans le texte, donc en latin. Et c'est important de rappeler que le latin était la langue aussi de la pensée, d'une pensée scolastique. Ces divers principes ont ceci de commun, qui sont tous connus de nous par l'exercice spontané de notre intelligence, prise comme moyen naturel de connaître, autrement dit par la lumière naturelle de la raison. Donc vous voyez ici qu'on va se diriger vers une notion fondamentale en philosophie réaliste, c'est ce qu'on appelle le sens commun. Maritain va développer, ce sera l'objet de la prochaine émission dans 8 jours. On regardera ce qu'il faut entendre par sens commun. Avant de passer au 4e point, qui est le plus long, nous nous reposons avec un petit peu de Schumann. Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le choix des plages musicales, Valérie Erzmanov pour la première et puis Schumann, ont en commun ici la référence à la musique populaire. Et j'ai choisi ces plages musicales parce que le sens commun est d'abord le premier moyen de connaître. Le quatrième point développé dans ce deuxième chapitre de l'introduction générale à la philosophie de Jacques Maritain, c'est connaître quoi ? Il écrit « Pour répondre à cette question, rappelons-nous de quoi s'occupent les divers philosophes. Ils s'occupent de toutes choses, de la connaissance elle-même et de ses procédés, de l'être et du non-être, du bien et du mal, du mouvement, du monde, des êtres vivants et non vivants, de l'homme, de Dieu. La philosophie s'occupe donc de toutes choses, c'est une science universelle. » Et là, Maritain ouvre un débat. Est-ce à dire que la philosophie absorbe en elle toutes les sciences ? Et quelle est la science unique dont toutes les autres ne seraient que des parties ? Ou bien, au contraire, qu'elle s'absorbe elle-même dans les autres sciences dont elle ne serait que la collection ordonnée ou la systématisation ? Non, elle a sa nature et son objet propre. Elle est distincte des autres sciences, sinon elle ne serait rien. Vous remarquez un mot-clé pour Maritain, distinct. Distinct qui va opposer à séparé. Distinct ne sera pas séparé. Et plus loin, plus tard, ça donnera distinguer pour unir. Ici, c'est très important de savoir que pour Maritain, cette détermination de la philosophie comme science se situe non pas dans une absorption par la science de la philosophie, par la science aux sciences scientifique, géométrique, vérifiable, ni à l'opposé une dilution des autres sciences dans la philosophie. Pour cela, il va développer ce qu'on appelle l'objet formel ou le point de vue formel de l'objet matériel. Et il donne un exemple qui va nous permettre de comprendre. Il dit « La chimie a pour objet matériel les corps non vivants, le sens de la vue, les choses placées devant nous. Mais cela ne suffit pas à distinguer la chimie de la physique, par exemple, qui s'occupe aussi des corps non vivants, ni à distinguer la vue du toucher. Pour définir exactement la chimie, il faudra dire qu'elle a pour objet les changements profonds, changements substantiels des corps non vivants. De même, il faudra dire que la vue a pour objet la couleur. On aura ainsi assigné leur objet formel, c'est-à-dire ce qui par sa nature même et immédiatement, ou encore par soi-même et directement, ou encore nécessairement et avant tout, est atteint ou considéré dans les choses par cette science, cet art ou cette faculté. Ainsi, parmi toutes les connaissances humaines, la philosophie seule a pour objet tout ce qui est. Ici, vous avez un vocabulaire difficile parce que c'est un vocabulaire technique. Je m'arrête sur la conclusion avant de vous retrouver la semaine prochaine. Voici ce qu'il écrit. La philosophie est la connaissance scientifique qui, par la lumière naturelle de la raison, considère les causes premières ou les raisons les plus élevées de toutes choses, ou encore la connaissance scientifique des choses par les premières causes selon que celle-ci concerne l'ordre naturel. Cause première, objet formel et lumière naturelle, non plus de secret pour vous. À la semaine prochaine.